Compensation, le droit de fêter Noël avec un éclat particulier et selon ses idées personnelles. Il choisit Greccio parce que le seigneur du lieu, Giovanni di Velita, qui attachait moins d'importance à la noblesse du sang qu'à celle de l'âme, avait fait don à François de la montagne couverte de bois qui dominait l'éperon rocheux de son village et le val de Rieti jusqu'au mont Bleuté s'étendant à l'horizon. Sur un aplomb de la muraille de pierre, François avait fondé un petit ermitage, utilisant comme d'habitude une des grottes que lui offrait la nature. Elle fut transformée en chapelle. Sur sa demande, on y installa une mangeoire généreusement pourvue de paille. Suivirent un bœuf et un âne, témoins exigés par la tradition. Au cœur de la nuit, les flambeaux s'allumèrent et la population d'alentour montait de tous côtés à travers les arbres, torches au poing, si bien que les sentiers de la montagne palpitaient comme des ruisseaux de lumière. Un prêtre était venu pour dire la messe qui fut célébrée sur la mangeoire devenue crèche, le presepio, cher aux Italiens, et ce fut François, revêtu de la dalmatique de diacre, qui lut l'évangile de la nativité. La foule, émerveillée de cette redécouverte du grand mystère, suivait avec attention les moindres détails de la cérémonie. Et beaucoup crurent voir François tenir dans ses bras l'enfant baigné de rayons. La foi du Moyen-Âge, plus près de l'enfance que la nôtre, traduisait d'instinct par des visions les vérités à croire qui parlaient mieux à son cœur. Cette nuit-là était d'une douceur exceptionnelle qui ne fut jamais oubliée. Dans les bois, les frères chantaient, et les lumières luisaient doucement un peu partout, comme pour se joindre à cette explosion d'allégresse inattendue et répondre à la clarté obscure du ciel. Ce fut notre messe de minuit, la première, pleine de cette poésie que seul un François d'Assise pouvait trouver. Cette année de bataille incertaine se terminait pour lui dans une joie extatique. Lettre à frère Antoine. Après Noël, ou tout au début de 1224, François écrit une lettre de 4 lignes à frère Antoine, en réponse à une lettre qu'il a reçue de lui. À frère Antoine, mon évêque, frère François, salut. Il me plaît que tu enseignes aux frères la sainte théologie, pourvu que dans cette étude, tu n'éteignes pas l'esprit d'oraison et de dévotion, comme il est prescrit dans la règle. Sans être sèche, elle est précautionneuse. Elle fait l'effet d'une permission accordée parce que les temps changent, comme on confierait un médicament dangereux à une jeune personne inexpérimentée. Le terme de « mon évêque » ne doit pas égarer. Il ne s'agit pas là d'un badinage amical, mais du titre donné à un prédicateur, prélat ou non. Ce qui ressort en tout cas de ce bref message pourrait paraître une sourde méfiance à l'égard de la théologie, si elle met en péril et l'esprit de prière et celui de dévotion. Pourquoi cette mise en garde? Et qu'a-t-il à craindre de son correspondant? Né à Lisbonne vers 1195, de grande famille et beau comme une fleur, celui qui s'appelait alors Fernando repoussa les attraits du monde et entra dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin où il acquit de vastes connaissances. Il était chanoine de Sainte-Croix de Coimbra quand, en 1220, les martyrs franciscains du Maroc furent ensevelis dans son église. Sans hésiter, il décida immédiatement de devenir frère mineur. Les Augustins tentèrent de le garder chez eux, mais rien n'y fit. Prenant le nom d'Antoine, il entra chez les franciscains du Portugal, puis se rendit en Italie et assista au chapitre du 30